Pierre-Étienne Joie.
Dans le Haut-Val-de-Bagne, en Valais, une lave torrentielle a détruit le pont d'accès au village de Lourtier. La localité est désormais inaccessible en voiture. Seul un chemin pédestre permet de rejoindre le fond de la vallée en cas d'urgence. Il s'agit d'un pont fusible, c'est-à-dire qu'il avait justement été conçu pour céder en cas d'événement majeur, afin d'éviter des dégâts plus graves. La lave torrentielle a néanmoins surpris par sa puissance. Et dans le Haut-Valais, les recherches ont repris à Blatten pour retrouver l'homme disparu. Des personnes et des engins s'activent sur place. L'appel mécanique est également engagé sur place. Une observation permanente est assurée par les pompiers ainsi que par l'armée. Le Parti socialiste suisse a remis les signatures de son appel pour Gaza à la chancellerie fédérale. Selon le PS, l'inaction de la Suisse officielle devient de plus en plus insupportable. Environ 130 000 personnes appellent le conseiller fédéral Ignacio Cassis à agir dès maintenant. 55 anciens diplomates et deux anciennes conseillères fédérales notamment ont appelé à agir. Suisse a officiellement déménagé son siège depuis Bâle vers son centre névralgique et opérationnel de Kloten, près de Zurich. Le siège rhénan de la compagnie aérienne est un héritage de l'aïeul, Crossair. Suisse International Airlines avait retiré en 2015 l'Euro Airport de Bâle-Mulhouse de sa liste de destinations régulières. La croissance au premier trimestre a été plus rapide que ce qui avait été calculé. Le produit intérieur brut, le PIB suisse, a progressé de 0,8%, notamment grâce à un rebond des exportations vers les États-Unis avant l'entrée en vigueur des droits de douane. C'est le SECO qui a révisé ses statistiques à la hausse ce matin. Et dans le dossier nucléaire iranien, le chef de la diplomatie iranien rencontre aujourd'hui au Caire le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et réunion sous l'égide de l'Égypte qui intervient au lendemain de la publication d'un rapport de l'Agence des Nations Unies. Un rapport qui montre que l'Iran a intensifié sa production d'uranium enrichi à 60%, un niveau proche des 90% nécessaires à la fabrication d'armes atomiques. Une dizaine de morts dans un bombardement israélien à Gaza. La défense civile annonce le décès de 14 personnes dans un bombardement israélien sur une habitation à Jabalia, une ville dans le nord du territoire palestinien. Il y a 6 enfants et 3 femmes parmi les victimes. Il est important que le Conseil fédéral puisse trouver des solutions d'ici le 9 juillet. La commission s'est entretenue en présence du ministre de l'économie Guy Parlemin en charge du dossier. C'est le mandat de négociation avec les États-Unis pour limiter les droits de douane américains qui visent la Suisse. Et cela a le soutien de la commission de politique extérieure du national. Tennis, le numéro 3 mondial Alexander Zverev s'est qualifié pour les quarts de finale de Roland-Garros. Il pourrait retrouver le Serbe Novak Djokovic, finaliste 2024 du tournoi du Grand Chelem parisien. Zverev menait 6-4, 3-0 au moment où le Hollandais a jeté l'éponge sur blessure. La météo, le temps sera très nuageux avec des pluies, des températures en baisse, 22 degrés au maximum cet après-midi. Pour demain mardi, le temps sera en partie ensoleillé et sec le matin avec davantage de nuages l'après-midi avec des averses, des orages, plus épars en Valais, température maximum 22 degrés.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Du 30 août au 14 septembre, le Valais devient le terrain de jeu des meilleurs VTTistes de la planète. Les championnats du monde Mountain Bike UCI 2025 prennent place dans 8 destinations valaisannes. Adrénaline, vitesse, parcours spectaculaire et ambiance survoltée. Venez vivre l'euphorie au cœur de l'action. Plus d'informations sur valais2025.ch. Retrouvez l'événement en direct sur RTS2 et sur l'application PlayRTS.
Drôle d'époque. Mélanie Crovalian, Simon Mathé-Doré.
Soyez les bienvenus dans cette drôle d'époque. Quel plaisir de vous retrouver, notamment de retrouver Bastien Testori derrière la vitre, fidèle au poste avec sa casquette New York, et de vous retrouver, chère Mélanie. Salut,
oui,
comment ça va?
Pas de casquette, tout
non,
va bien.
Vous n'avez pas de casquette, vous avez juste un casque de radio. Quoi de mieux que de commencer une nouvelle semaine en parlant de bonne chair, de bonne table? Vous êtes d'accord avec ça?
Ah, hein, mais
ça, je pense que ça va pas
début,
vous déplaire.
Début, milieu, fin de semaine, tout le temps.
Ça marche tous les jours. Notre invité a été formé à l'école des grands chefs. On peut citer Stéphane Descotter, Georges Blanc. Et aujourd'hui, il en fait partie de ce cercle. Même si son truc à lui est très original, lui, ce qu'il aime, c'est l'approche locale, voire ultra locale, inspirée par la nature, par les plantes sauvages. Il ne servira rien dans son restaurant qui ne sera pêché ou cultivé à plus de 70 km de rayon. Faut prendre un compas. Bonjour Jérémy Cordier.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes depuis peu, oui, ça a ouvert il y a 2 mois à peine, le chef du nouveau restaurant Racine avec, au singulier, c'est pas Racine au pluriel, au sein de l'hôtel Bon, et non pas Beau, Bon Rivage à la Tour de Paix sur les rives lémaniques, c'est pas très loin d'ici. Vous avez grandi dans le Jura français, et aujourd'hui on est lundi, donc vous avez pu venir nous voir. Le lundi vous êtes fermé, c'est ça?
Exactement, on est fermé le dimanche lundi, donc pleinement, complètement à
vous. Donc vous êtes reposé et libre.
Exactement.
C'est ça qui est bien.
À quoi ressemblent vos lundis en général? Vous arrivez vraiment, parce qu'on sait les grands chefs, hein, ils sont prises directes avec les produits qu'ils servent et qu'ils cuisinent. Vous arrivez à vraiment couper le dimanche et le lundi?
Oui, complètement. Alors le lundi, il y a un élément essentiel, hein, c'est ma fille qui a besoin d'attention, enfin d'aller l'amener à l'école, aller la chercher. Je m'en occupe aussi le midi. Ma femme travaille, donc c'est moi qui suis garant.
Vous lui faites à manger le midi?
Exactement, ouais.
Ah, ouais. Qu'est-ce que vous lui avez fait à midi là?
Alors à midi, c'était cordon bleu. Des petites pommes de terre sautées, des brocolis. Elle adore le brocoli, donc j'en profite.
C'est très rare.
On imagine qu'elle est exigeante puisqu'elle est votre fille, non?
Elle est plus exigeante. Oui. Très compliqué.
Donc ouais, on imagine les cordons bleus, c'est pas ceux que vous avez achetés tout emballés dans un supermarché.
Non. Je choisis pas la facilité. Je les fais quand même maison. Ouais.
Comment on fait un cordon bleu? Moi, j'achète des cordons bleus qui sont emballés sous vide, donc c'est ce dont vous parlez.
Ça, vous attaquez pas avec un truc dur.
C'est pas très compliqué. Je passe à confesse, mais un cordon bleu de chef, ça doit être assez difficile, non?
Non, c'est du poulet, jambon, fromage, de la panure et à la poêle. Voilà, une fois que le fromage coule, c'est que le cordon bleu est cuit.
Quel fromage?
Du gruyère.
Du gruyère.
Tout simplement.
Gruyère,
ouais. Et la panure, vous la mettez directement sur le poulet ou bien vous?
Oui. Bah alors un peu de jaune d'œuf.
Jaune d'œuf quand même.
Et chapelure, oui.
Et alors vous appliquez cette règle à vous aussi, à votre propre consommation, les 70 km, Jérémy Cordier, les produits que vous servez en famille?
Alors, bonne question, et non. Non.
Ah, vous êtes attrapé là.
Non, mais il n'y a pas de... Non, j'aime beaucoup découvrir des nouvelles choses, donc je me balade souvent au marché, je regarde aussi ce qui se passe, ce que je peux trouver comme épices, piment, peu importe, des huiles aussi, mais le message que je veux transporter au restaurant ne s'applique pas forcément à mon quotidien en tant que comme à la maison, quoi, tout simplement.
Ça veut dire que les épices, c'est pas forcément simple d'en trouver qui soient à moins de 70 km.
Non, mais justement, nous on joue beaucoup sur des assemblages, par exemple le poivre, on n'a pas de poivre ici, alors il y en a un qui fait du poivre, mais voilà, c'est très difficile d'en avoir.
On a du safran en Haut-Valais.
Voilà.
Mais ça, c'est à plus de 70 km, ça.
Non, là.
C'est bon, dans le rayon, c'est bon.
Du safran fribourgeois, non, on utilise.
Ah, du safran fribourgeois, ça, c'est bon. Ouais, d'accord. Ouais.
Et donc, le poivre, on fait torréfier des graines de courge. Et on le mélange avec des légumes fermentés qui apportent ce petit côté piquant. Et donc, le client, ces graines de courge torréfiées aux légumes fermentés, ce qui rappelle le petit côté poivré.
Il faut être un peu MacGyver, quoi, trouver des solutions alternatives quand on n'a pas le...
Exactement, il a fallu trouver quelque chose qui corresponde à ceux qui veulent absolument le tour du moulin sur leur viande.
Les contraintes forcent la créativité.
Et voilà, exactement.
À quoi ressemble sinon une journée type de chef, Jérémy Cordier? Lever tôt, coucher tard, ça c'est en général ce qu'on sait des chefs, pour vous c'est comme ça aussi?
Oui. Je fais pas exception à la règle. Non, c'est ça.
6h, 6h30.
6h30. Je prépare le petit déjeuner pour la petite famille. Et puis ensuite, quand tout le monde part, vers 8h, 8h15, moi, je prends la direction de l'hôtel, hein, qui est à 5 minutes à pied ou de chez moi. Donc, j'y suis assez rapidement. Il n'y a pas de problème sur la route. Mais, et puis après, c'est parti. On cuisine. On regarde les arrivages, on regarde avec l'équipe si tout va bien, s'il manque de rien, on regarde combien on a pour le service. Enfin, je fais le tour du jardin avec le jardinier. On a un énorme jardin, donc lui, il plante, il cultive, il ramasse aussi pas mal de choses. Donc on adapte le menu de notre restaurant gastronomique en fonction de ce qu'il a. Et puis voilà, puis après le service. Après le service au bureau, ensuite une petite coupure. Et à 17h, c'est reparti.
Jusqu'à 22-23h.
Oui, 22h30, 23h, oui. Ouais, ouais.
Entre passion et sacerdoce, quelle est la proportion chez vous ?
Oh, bonne question. Je pense qu'il y a, il y a beaucoup de passion. Et puis, je suis un éternel optimiste, donc je vois pas de côté négatif à ce métier. Voilà.
Mmh. Elle est où votre fille maintenant, puisque vous en occupez normalement ?
Et là, elle sort de l'école, 15h10, ça sonne là. Donc, c'est son papy qui va aller la chercher.
Ah, bon, ouais. Salut le papy qui vous a permis de faire cette émission et qui nous permet de vous recevoir. Oui. Alors, salut au papy. 70 kilomètres, on y reviendra. C'est difficile d'appliquer cette règle aux mecs que vous servez. On plaisantait tout à l'heure hors antenne. Vous me disiez qu'on peut trouver des crevettes dans un rayon de 70 kilomètres autour de la Tour de Paix. C'est vrai ça? On peut donc il y a quelques surprises.
Oui, il y a quelques surprises. Il faut surtout être curieux, regarder ce qui se passe, toujours. Chercher, regarder, enfin, il y a quand même, avec les réseaux sociaux, c'est quand même plus simple. C'est vrai que maintenant, il y a pas mal de producteurs qui viennent directement vers moi pour me parler de leurs produits. Donc ça, c'est assez plaisant. Mais on découvre toujours. Et puis après, ben, en fonction de ce qu'on a, on regarde, on mélange le tout pour créer des plats tout au long de l'année.
Mais les crevettes, ouais. Elles viennent d'où alors?
Elles viennent à côté de Bâle.
C'est dans la mer, les crevettes.
Eh ben ouais, mais ouais. Là, ils ont reproduit l'eau de mer. Et voilà. Donc, c'est des crevettes bleues, accrues, parce qu'elles ne mangent pas de plancton. Et puis ensuite,
elles ne sont pas roses, oui.
Voilà. Bah, la cuisson, elles deviennent un petit peu roses.
Donc, bleues, elles, qu'est-ce qu'elles mangent pour être bleues?
Ouais, ils les alimentent d'une autre manière.
De l'encre.
De l'encre, oui.
Elles sont grises, normalement.
Oui, oui.
D'habitude, ouais. C'est le qu'on.
Mais c'est un produit très sympa et qu'on utilise sur la carte tapas à picorer, voilà. C'est sympa.
Petite crevette à picorer. C'est rigolo de se balader sur le site du restaurant Racine parce qu'on peut voir effectivement la liste des producteurs et leurs photos parfois même. On voit qu'il y a quand même pas mal de monde qui fait pas mal de choses dans un rayon de 70 kilomètres.
Ah, complètement, oui. Et puis ça, c'est vraiment une volonté. Quand on a lancé Racine, le but, c'était de mettre en valeur vraiment tous ceux qui travaillent autour de ce restaurant parce qu'à mon sens, c'est vraiment eux les stars. De ce restaurant, c'est pas nous on fait les finitions, on travaille le produit brut, mais eux, enfin ils prennent du temps. Si on parle d'une carotte, ils la sèment, ils l'arrosent, ils la cultivent. Il y a quand même, on est affaire à des vrais passionnés, donc. On respecte et puis on travaille le produit en conséquence.
Et la clientèle.
Vous êtes modeste, hein, parce que vous faites quand même des trucs, ouais. Je peux dire deux, trois choses qui sont sur le menu, mais quand on voit poire au vinaigrette, stracciatella fumée, jeune pousse, graine, la sauce chimichurri avec le carpaccio de bœuf, les crevettes bleues d'Argovie en persillade, soupe froide de légumes du moment, croûtons aux herbes, vous bossez aussi quand même.
Oui. Non, mais c'est sûr. Mais voilà, les producteurs pour moi c'est essentiel. Cette limite des 70 kilomètres était hyper importante pour garder cette proximité. 70 kilomètres, c'est une heure en voiture. Donc la plupart, la majorité même des producteurs, on a un lien direct avec eux. On les voit quand ils livrent leurs produits. Et ça donne encore une histoire. Enfin, c'est une histoire magnifique, quoi. Le fait de parler, qu'ils nous livrent leurs champignons. Il y a deux frères qui cultivent des champignons là dans les vieilles caves de Vevey. Voilà, on
mais
a les champignons.
70 kilomètres en fait.
Mais ça, oui, alors parlons-en maintenant. Allez, allez.
Mais 70 pour plusieurs raisons. Alors c'est une heure de voiture.
Bâle, c'est un peu plus loin. Hein, mais vous les prenez les crevettes, alors oui.
Oui. Non, mais c'est vraiment un périmètre.
C'est le rayon à vol d'oiseau. Rayon à vol d'oiseau.
Ah ouais. Donc on touche pas mal de cantons suisses romands. On a aussi toute la Haute-Savoie qui est en face. Et puis 70, j'ai poussé. Moi, je voulais vraiment je voulais 50 pour. Voilà, mais bon, je touchais pas le Jura, mon Jura natal. Donc
j'ai pensé que c'était par rapport à vos origines.
Hein. Voilà, vous avez raison.
Voilà, c'est ça. 70 kilomètres, vous pouvez aller des produits bien de chez vous. C'est quel village, quelle ville?
Alors moi, je viens d'un petit village qui s'appelle Haute-Cour. Enfin, je peux vous parler de tous les petits villages, mais il n'y a pas de grosse ville qui puisse vous aider.
La ville à proximité de Haute-Cour.
Ça s'appelle Lons-le-Saunier.
Ah, Lons-le-Saunier, bah oui, bien sûr.
On connaît Dole, on connaît Lons-le-Saunier.
On connaît très bien, vous savez, on connaît très bien l'autre côté aussi. On aime bien, y aller. Et vous avez ouvert ce restaurant Racine il y a 2 mois. Alors, il y avait un autre restaurant au sein de cet hôtel Bon Rivage depuis longtemps, mais c'est pas rien de lancer ou de relancer une entreprise comme ça. La clientèle suit, adhère au projet des 70 km et du local.
Oui. Le tout, c'est la communication, c'est savoir raconter ce qu'on a dans les assiettes, ce qu'on veut amener. Le message est hyper important, c'est quand même assez fort. Donc là, c'est l'équipe de salle qui le fait très bien. Après, il y a toujours des personnes réticentes et qui veulent absolument manger des tomates au mois de décembre ou alors. Enfin,
ça vous les virez du restaurant, non, ces gens-là?
Oui, on aimerait.
Les fraises en décembre.
Mais non, mais vous n'y pensez pas.
Voilà, donc là on est vraiment encore dans cette période de transition où les clients, enfin les habitués d'avant viennent, il y en a qui adhèrent, il y en a qui adhèrent pas, et puis on accueille une nouvelle clientèle qui elle vient pour l'expérience, pour découvrir ce qu'on a proposé. Donc c'est plutôt positif en tout cas.
Bon, en dehors de ce concept, on peut juste venir manger, parce que quand on lit la carte, si on sait pas cette histoire des 70 km, ça fait envie quoi.
Non, tout à fait, ouais.
Vous nous l'avez lu tout à l'heure d'ailleurs. Oui. On pourrait le redire
avec ces fameux ligots.
Ah oui, c'est quoi les ligots? On a regardé ça, les ligots, L-I-G-O-T-S. Qu'est-ce que c'est? C'est des choses ligotées, c'est ça?
Exactement, oui. C'est comme des fagots, c'est plusieurs choses ensemble. On a vraiment séparé la restauration en deux parties. On a ces fameux ligots, où c'est plein de petits plats partagés, où vous pouvez prendre pour l'apéritif, ou alors vraiment faire des repas complets avec. Où là, vous découvrez tout notre terroir à travers des petites assiettes, voilà, à partager ou à manger de façon individuelle. Et puis le soir, on a vraiment une offre gastronomique où là, on demande aux clients de nous faire confiance. Et puis, ils choisissent en 5 ou 7 étapes. Et là, pareil.
C'est la surprise.
Ouais, exactement, ouais. Ouais.
Donc, entre 5, 7 plats.
Voilà.
Et puis, les ligots, c'est assez à la mode, hein. J'ai déjà vu pas mal de restaurants qui font ça, des petites assiettes. On est 2, 3 à table, ouais. Et puis on en commande 2, 3, 4. Et puis, chacun picore dans les assiettes.
Mais c'est la première fois que je vois le mot ligot écrit quelque part.
C'est vrai.
Voilà. On a enfin compris ce que ça voulait dire.
Alors, pour ceux qui aiment pas partager leur assiette, ça va pas.
Ils peuvent
dire je prends ça pour moi, tu y touches pas.
Vous êtes comme ça, vous?
Moi, j'aime pas trop partager.
Ah, c'est vrai. Ouais. Ah, je suis un peu comme vous.
Non, parce qu'après, c'est l'autre qui mange.
Mais néanmoins tenté par ce que je vois sur la carte de notre chef, Jérémy Cordier. Comment allez-vous dans cette drôle d'époque? Question générale, on la pose à tous les invités.
Eh ben moi ça va très bien dans cette drôle d'époque. C'est vrai que tout va vite en ce moment. Il y a un contexte qui est quand même assez compliqué. Mais moi j'ai de la chance de faire un métier où les gens viennent, prennent le temps de manger. C'est un moment où ils sont hors du temps, assis. Alors des fois ils sont sur leur téléphone, mais au moins ils sont là, ils partagent quelque chose avec la personne qu'ils ont en face d'eux. Et puis c'est un petit moment de bonheur dans la journée. Donc 2 fois par jour, on contribue à ce plaisir quotidien.
Contribuer au bonheur des autres, c'est pas mal ça comme rôle dans la vie.
Oui, c'est pas mal. Ouais.
C'est pas mal.
Ouais.
Vous devriez être remboursé par les caisses maladies.
Oui, bonne idée. Oui.
Vous avez songé à le demander?
Ben non, je vais le faire. Je sors du studio et je m'en occupe.
Chef du restaurant Racine au sein de l'hôtel Bon Rivage, c'est à la Tour de Paix, ça a ouvert début avril.
Exactement, 8 avril, oui.
Et vous êtes ouvert tout l'été, évidemment.
Ah oui, avec une magnifique terrasse, on peut pas se permettre de fermer là.
On est vraiment sur le lac. Hein.
Sauf le dimanche et le lundi, on l'a compris. Hein.
Oui.
Ça, c'est congé. On va écouter de la musique et ensuite ce sera l'heure du portrait qu'a concocté comme une grande chef Mélanie. Oh. I want to break free, c'est Queen.
I want to break free. Yeah!
Queen dans les années 80, I Want to Break Free. Queen dont la statue du chanteur Freddie Mercury trône pas très loin de chez vous, la Tour de Paix. Il a sa statue à Montreux, il a enregistré pas mal d'albums à Montreux. Mais évidemment, vous êtes beaucoup trop jeune pour l'avoir connu. Il y est même décédé, sauf erreur, au début des années 90, Freddie Mercury. Vous connaissez cet héritage-là, Jérémy Cordier, vous qui êtes pas très loin.
Ah oui. Et puis Queen, non, je suis un grand fan aussi, ouais. Même ouais. Si c'est pas mon époque, je l'écoute encore très bien. Ouais.
Habitué du festival de Montreux.
C'est ça.
Oui. Ah, oui, tous les ans. Oui.
Tous les ans.
Oui.
Vous avez le temps de vous y rendre.
Je prends le temps de m'y rendre.
Prenez le temps de vous y rendre.
Ouais.
Bon. J'imagine que pendant le festival, là, c'est la première année que vous ouvrez, mais on imagine qu'il y aura peut-être d'illustres hôtes qui vont venir manger chez vous.
J'espère qu'on va pouvoir les attirer et leur faire découvrir
pas mal, ouais.
Notre cuisine,
ouais. Ah ben oui, vous pensez à des chanteurs, des chanteuses, stars, ouais, des groupes, des stars,
venir manger chez vous.
Ah ouais, oui.
Ils aiment bien en général découvrir le terroir.
Ouais. Ouais, comme tout le monde, mais ouais, on serait vraiment content de les.
Bah, ils nous écoutent, hein. Donc,
oui, c'est ça.
Ils nous écoutent.
You have to go and eat at Racine.
Absolument.
At Tour de Paix.
36 ans, Jérémy Cordier, vous avez grandi dans le Jura français, pas très loin de Lons-le-Saulnier, on l'a appris tout à l'heure, le reste c'est Mélanie qui va nous le raconter dans son portrait réalisé à deux avec
oui.
Bastien Testori derrière la
vitre. Mon complice Bastien Testori va nous faire des surprises.
On y va ?
Ouais. Il fait froid et humide dans la cave de Christopher et Alex. Jérémy enfile son pull et respire à plein nez. Odeur d'humus, de pourriture, de moisissure. Il est entouré des champignons produits par ces deux garçons pleins d'ingéniosité. Les déchets de brasserie qui nourrissent les champignonnières sont une solution qui lui va comme un gant depuis qu'il a ouvert Racine juste à côté, animé par une préoccupation écologique prononcée. L'idée du zéro déchet couplé à des produits locaux le met en joie. Il salive déjà en pensant au plat qu'il va inventer avec ses magnifiques pleurotes roses qui s'épanouissent comme des coraux devant ses yeux sur l'étagère du fond. Jérémy est concentré. Il a les yeux qui brillent devant ses trésors en champignons. Pour lui, cet endroit en pleine ville de Vevey est une sorte de caverne d'Ali Baba, doublée d'une puissante machine à voyager dans le temps. Les mains dans les poches de son sweatshirt, il se retrouve soudain transporté dans les sentiers du Jura français en compagnie de sa tante. Il a 6 ou 7 ans et il vient de pleuvoir. Les champignons sont sortis. Il sent ses pieds transpirer dans les bottes de pluie trop grandes pour lui et son ciré l'enveloppe comme une cape de super-héros. Il se souvient du jeu qu'il avait inventé un jour de printemps, sous le regard hilar de sa tata.
Alors, pour faire une bonne course aux escargots, il faut de la feuille de pissenlit, il faut de l'humidité. Maintenant, vous allez choisir un escargot chacun et le mettre sur la ligne de départ. Ouais, moi, je vous conseille de choisir ceux qui sont déjà en train de sortir.
Voilà. Bah oui, il y en a un, regarde comme il est vigoureux.
Et pendant ce temps-là, on va leur fabriquer un aliment spécial qui est fabriqué avec du maïs et du blé.
Jérémy a terminé sa visite chez Mission Mycelium. Il repart chargé d'un cageot de pleurotes de toutes les couleurs. Il doit se contrôler pour ne pas faire d'excès de vitesse sur le court trajet entre Vevey et son restaurant. En conduisant, il se souvient du goût des champignons préparés par sa tante, avec de l'ail, du persil, beaucoup de beurre et de la fleur de sel sur le pain frais et chaud qu'il trempait dans la sauce des escargots. Il se gare, sort son cageot de champignons du coffre, retrouve Basile en cuisine. Ils s'extasient tous deux sur la qualité des champignons. Jérémy en colle un à son nez, c'est une pleurote bleue. Il se retrouve propulsé dans l'une des premières cuisines professionnelles qu'il a fréquentées, là où le virus de la cuisine l'a atteint pour la toute première fois.
Je remercie mes parents de m'avoir un petit peu guidé dans cette voie, parce qu'aujourd'hui, je suis un petit peu au terme d'une vie professionnelle, même si je n'ai pas l'intention de m'arrêter tout de suite, mais je crois que l'œuvre est presque accomplie. Maintenant, il faut pérenniser, il faut que je sache transmettre et que mes enfants puissent relever le défi de continuer sur le même niveau. Il faut qu'ils soient à la hauteur. Alors, évidemment, je leur transmets mon expérience, mais j'essaye aussi de leur communiquer ma passion, parce que c'est la passion qui permet le dépassement, hein, dans une vie professionnelle. Et parvenir et se maintenir au plus haut niveau, c'est souvent beaucoup de travail, mais surtout beaucoup de passion.
Jérémy, nous son tablier, il est debout à côté de Basile, il suit son instinct et commence à couper les pleurotes. Il ajoute des échalotes. Il est encore tôt, mais Jérémy veut goûter le produit avant de commencer le service de midi. La poêle est sur le feu. Il monte la chaleur, se penche au-dessus, la vapeur qui s'en échappe le transporte dans la cuisine de sa tante. Il perçoit son oncle dans un coin de la pièce muni d'un grand récipient en métal. Il vient d'apporter le lait frais du jour. Jérémy sent la salive lui monter à la bouche. Il se souviendra toute sa vie de ce goût aigre et tiède du lait qui vient d'être tiré. Il s'essuie machinalement la bouche du revers de la main, comme pour effacer une moustache imaginaire laissée par le breuvage riche de son enfance, et il fait sauter ses pleurotes. Il ajoute un peu de sel, une gousse d'ail émincée, pas mal de poivre, une tombée de crème. Il effeuille dessus une botte de persil et éteint le feu. Basile et lui finissent leur assiette en saussant la poêle encore chaude avec le délicieux pain de Laurent et Thomas, croustillant et moelleux à la fois. Et à peine ont-ils avalé leur dernière bouchée qu'on entend une voix par la fenêtre ouverte de celle de la cuisine. C'est Christophe qui vient d'arriver du Bouvray. Sa camionnette est ouverte à l'arrière et il porte un cajot chargé de poissons, ceux qu'il a pêchés tôt ce matin dans le Léman, qu'on aperçoit par la fenêtre.
C'est-à-dire que la perche, je pense qu'il en reste encore au lac, encore suffisamment pour nourrir son monde, mais qu'elle a peut-être un petit peu changé d'habitat.
Oui.
C'est-à-dire qu'avec la pollution, la perche ne vient plus au bord, sur les cailloux, comme dans le thym, à cause de tous ces ingrédients qu'il y a, la mousse et tout.
Mais la
et
mousse,
tout ce qu'on envoie en bas.
C'est vrai qu'un filet de perche, la mousse à raser, ce n'est pas très gastronomique.
Non, même. Je pense pas. Non.
Quand je dis la mousse à raser, je suis encore poli. Ouais. J'ai d'autres D'accord. spécialités que je pourrais vous citer.
Le repas de midi approche. Jérémy est aux commandes. Dans sa cuisine, les premiers clients viennent d'arriver. Il a encore sur le bout de la langue le goût des champignons, de l'ail et de la pointe de sel qui traînent en arrière-fond. Il sent une miette de pain coincée entre deux molaires, la déloge et la savoure encore, tout en souriant à Stéphanie, son épouse, qui passe en coup de vent et pique une fraise dans le panier posé au-dessus de l'évier. Jérémy se remet au travail. Vincent vient de passer la tête dans la cuisine depuis la salle. Il signale qu'on a un client un peu pressé. Il faudrait accélérer la préparation du tataki de poisson. Jérémy s'exécute en souriant. Il est heureux que son nouveau restaurant ait trouvé sa clientèle. Il pense aux longues discussions avec ce chef qui lui a tant appris, quelques années plus tôt et quelques kilomètres plus au nord, au pont de Bran. Il sonne pour prévenir Vincent que le tataki est prêt, et en saisissant une botte d'herbe du jardin, il pense à ce mentor qui lui a le premier parlé des produits locaux et de l'effet de surprise que de simples écrevisses du lac pourraient avoir sur leurs convives.
Les gens aiment bien être surpris. Après, il y a des incontournables quand on vient dans des restaurants comme les nôtres, de produits que les gens n'ont pas l'habitude de cuisiner chez eux, du homard, certains poissons de mer. On ne serait pas obligé de les cuisiner, mais on sait que les gens ont toujours du plaisir. Il y a un côté festif toujours.
Merci Mélanie. On a entendu Georges Blanc et Stéphane Descoteurs
à l'instant. C'était à l'époque où il n'avait pas encore fait son virage vers le pur
local. Vers le 100% local. Jérémy Cordier, vous avez écouté ce portrait, c'est le vôtre. Hein c'est
oui,
le vôtre.
Puis on entendait aussi Willem Grandchamp, pêcheur à la Tour de Paix.
Et
en 1980,
Michel Denaria,
Michel fait partie de l'équipe.
Absolument. Vous, le pêcheur, c'est Christophe Sofera.
Oui, tout à fait. Ah. Oui. Oui, Christophe et Pierrick, qui eux sont de l'autre côté du Léman à Évian, et ils passent, ils pêchent dans le même lac que nous, hein, donc voilà, et ils nous ramènent à chaque fois des produits magnifiques, hein, des brochets, des silures, des truites, des brèmes, enfin, non, que des produits incroyables.
Comment ça se passe alors? Vous, ils vous appellent en disant, bah voilà, j'ai ça dans mes filets, qu'est-ce que tu veux? Ça se
Exactement,
passe comme ça.
Ouais. Ah ouais. Aujourd'hui, on a relevé ça. Est-ce que tu en veux? Oui, non. Et puis je fais mon petit marché par WhatsApp et j'ai mes photos de poissons qui m'arrivent.
Par photo.
Ouais.
Mais les perches, alors, il y en a encore? Parce que c'est toujours une grande discussion. Les perches du lac, est-ce que ça existe ou pas?
Alors, j'ai vu un truc un peu tordu l'autre jour dans un restaurant que je ne citerai pas. J'ai cru que c'était marqué perche du lac. Donc, je me suis dit, je vais en commander. Non, attendez. C'était marqué. Il faut de bons yeux. C'était marqué perche de lac. Ah. Mais ce n'était pas précisé lequel. Vous voyez un peu, c'est tordu. Hein. Perche
faut,
de lac.
Faut viser les perches du Léman.
Voilà. Oui, mais quand c'est du lac Léman, c'est spécifié. Mais perche de lac, on aurait tendance à se faire tromper. Oui. Chez vous, c'est évidemment du lac.
Ah oui, complètement. Oui. Alors, tous nos poissons viennent du lac. Après, si vraiment il y a quoi que ce soit, on se rabat sur les piscicultures aux alentours. Mais non, on joue la carte à fond. On ne ment pas à nos clients.
Et on en trouve des perches du lac.
Quelques-unes, c'est pour ça que je mets aucun nom de poisson à la carte, sauf pour le cendre, mais parce que sinon, enfin moi je m'adapte en fonction de ce que j'ai, enfin du retour de pêche du pêcheur. Voilà.
Mmh. Vous avez parlé de silure, je savais pas que ça se mangeait les silures.
Ah oui, alors le silure, c'est un poisson qui reste quand même assez vaseux, donc tout joue dans l'assaisonnement, mais le silure, il y en a de plus en plus et les pêcheurs ne savent pas quoi en faire, donc. Si on
autant
en prend
manger.
De temps en temps, oui, c'est ça, oui, et puis c'est une chair qui est quand même assez douce, donc une fois qu'on a passé ce côté vaseux, c'est délicieux. Et on le mentionne pas, on le mentionne après, une fois que l'assiette est terminée, vous avez mangé du silure.
La mauvaise réputation.
Et... Oui.
Ah, donc ça, vous annoncez pas la couleur?
Non, on met généralement poisson du lac ou alors ceviche du lac. Et
je reprends le menu.
Et
hein,
puis, ouais. Mais là, on l'a pas encore travaillé le silure, mais et le client mange. Et à la fin, le petit truc, le serveur, ça. Mais voilà, vous avez mangé du silure du lac. Alors forcément, la tête.
C'est le fameux poisson chat, le silure, qui peut mesurer jusqu'à, je sais pas, 1m52 pour les plus grands. Mais bon, alors, vous en avez hérité d'aussi grands, des fois, ça va être compliqué à cuisiner. Ça, il faut de la place, non?
Oui, il faut un gros plan de travail et puis un couteau bien aiguisé. Mais non, et puis c'est un plaisir, même pour nous en tant que cuisinier, de voir un tel poisson arriver. C'est rare et puis c'est un plaisir à travailler. Donc non, nous on travaille tout ce qui nous arrive sous la main. Ouais.
Wow. Alors, la naissance de votre passion, on a entendu Mélanie raconter dans son portrait les bons plats de votre tante. Je crois que votre oncle aussi était pas très loin. Il y avait une ferme familiale et tout ça est parti de là.
Oui, alors je pense que ça a aidé. J'ai mon oncle et donc ma tante qui ont repris la ferme familiale du côté de mon papa, dans le Jura, à Cerniebeau exactement. Et puis tous les étés, on allait là-bas et je pense que les meilleurs souvenirs gastronomiques, hein, même si c'était loin d'être de la haute gastronomie, étaient là-bas. Voilà, le fromage, le comté, la charcuterie de là-bas. Ah, c'est des odeurs, c'est des saveurs. Voilà. Et puis de l'autre côté, du côté de ma maman, où là, mes grands-parents étaient à La Rochelle. Donc pareil, l'été, on allait là-bas. Puis là, c'était autre chose. C'était les fruits de mer. C'était c'était différent. Donc deux ambiances complètement différentes, mais
qui se retrouve dans votre carte. Hein. Puisqu'on a du tataki de poisson, des crevettes, et puis en même temps, on a de la saucisse de veau façon rougail, enfin, des choses plus terriennes.
Oui.
C'est la mer et la campagne.
Oui.
Et vous, l'envie de faire vous-même, avec vos petits doigts d'enfant, peut-être, d'empoigner les casseroles, c'est venu à quel âge?
Alors, moi, je me suis pas dit, je vais être cuisinier depuis le plus jeune âge. Voilà, il a fallu trouver quelque chose pour moi. Enfin, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire à la fin de la troisième, en France, en tout cas, au collège.
La troisième, c'est quand on a quoi, 14,
ouais, c'est la fin 14, de l'école 15 ans.
Ouais, exactement. Et puis, je savais absolument pas. Donc, je suis allé visiter une école hôtelière et puis, au final, premier stage, ça m'a plu et j'ai pris le truc.
Mais vous faisiez déjà un peu à manger?
Oui, mais c'est pas, je veux pas dire que c'est ça qui m'a donné l'étincelle ou le déclic. Je le faisais, mais c'était basique. Je cuisais des pâtes, ou alors je faisais peut-être des croque-monsieur avec ma maman, mais non, j'ai pas de souvenirs très précieux.
Je connais des gens ici qui savent pas forcément faire des croque-monsieur.
Vous me regardez, Mélanie, mais vous avez pas tout tort. Vous avez pas tout tort. Mais des pâtes, je sais faire.
Hein. Ah, c'est déjà pas mal.
La viande
faut
aussi.
Mettre de l'eau. Hein.
Oui, faut mettre de l'eau. Oui, faut pas les cuire. Faut pas les cuire comme ça.
Faut mettre
un peu d'eau. Il est vrai que je ne suis pas un. Mais alors, par contre, j'aime bien manger.
Ah oui.
Ah oui.
Là, on peut faire l'un sans l'autre.
Oui.
C'est vrai.
Est-ce que vous aimez bien manger aussi? Parce que souvent, les gourmets sont pas forcément les meilleurs cuistots. Alors, est-ce que ça marche à l'inverse? Est-ce que les plus grands chefs sont de bons gourmets à côté?
Ah oui.
Vous aussi?
Oui.
Oui. Vous répondez oui tout de suite.
Ah oui, non, complètement, oui.
Ouais.
J'aime découvrir, j'aime me faire plaisir, donc. Non, je me limite pas dans ma nourriture.
Vous allez tester les camarades, voire concurrents ou concurrentes?
Ah oui, alors le dimanche, lundi, malheureusement, la plupart des restaurants sont fermés. Mais dès que je peux, oui, c'est sûr que voilà, il y a déjà une liste qui est prête pour aller découvrir des tables. Oui.
Et ce que j'ai raconté dans mon portrait, c'est donc plus ou moins plausible que vous goûtiez tout de suite les pleurotes que vous venez d'acheter. Vous voulez absolument vous faire un bon plat?
Oui, ah bah ça c'est sûr. Ouais, ouais, non, mais quand on voit la qualité de leurs produits, on n'a qu'une envie, c'est de les cuisiner, de les goûter, de regarder quelle association on peut faire, innover, trouver quelque chose qui puisse percuter, interpeller nos clients. Donc non, c'est ça mon sens, c'est sublimer leurs produits. Eux, ils ont passé des semaines à cultiver leurs champignons, et nous on va accompagner ces champignons en tout cas jusqu'à la fin et les sublimer à notre manière.
Ouais. Donc vous goûtez toujours avant.
Ah oui,
de faire un plat,
c'est hyper important.
Vous faites, ouais. Puis vous goûtez vous-même le produit.
Ah oui, oui. Oui.
Vous avez 36 ans, si je fais le calcul. Il y a 10 ans, vous en aviez 25-26. Très précis, 25 novembre 2015, même pas 10 ans, premier jour chez Stéphane Descotères au Pont de Brun. Un chef qui a changé votre vie, en fait.
Oui.
De cuisinier, en tout cas.
Oui, c'est ça. Dans tout parcours de cuisinier, il y a toujours un chef qui nous interpelle. Et puis moi, c'est vraiment Stéphane Descotères, avec son approche, le côté aussi humain que j'ai retrouvé dans cette cuisine, parce que en France, il n'y avait pas toujours vu des chefs assez colériques, assez très sanguins. Donc voilà, là, j'ai vu qu'il était possible de faire de la haute gastronomie tout en étant abordable, humain, pédagogue, et voilà, ce qui m'a permis de faire 2 ans chez lui. Donc, voilà.
Donc la colère, c'est pas une excuse. Hein. Tous les films qu'on a vus, je pense au Grand Restaurant, Louis de Funès et tant d'autres, où les chefs sont souvent des tyrans, quoi. Hein. Au fond, c'est pas une excuse.
Et c'est pas une légende non plus.
Non, c'est pas une légende. Et puis c'est une façon de, je pense pour eux, d'extérioriser leur stress. Mais malheureusement, le stress, il est toujours. Voilà, on le passe aux autres, et donc c'est plus comme ça, enfin c'est pas comme ça qu'on...
C'est un peu à l'ancienne.
Hein. Ouais, complètement, ouais. Ouais,
si on pense à Georges Blanc, avec qui vous avez travaillé, ça pouvait être compliqué, au niveau du caractère?
Oui, alors lui n'était pas trop dans sa cuisine, mais chef exécutif, oui, il était assez sanguin, ouais. Ça faisait partie de la formation, donc à côté de ça, on apprend la rigueur, l'organisation, mais il y a cette partie un petit peu sombre, un petit peu malsaine qui est là, et on se dit, c'est peut-être pas normal de voir tout ça. Et voilà. Donc,
vous énervez des fois, vous?
Ah, il en faut pour m'énerver, mais non, pas beaucoup.
Pas beaucoup,
ouais.
Donc non seulement vous êtes un chef, un grand chef, mais en plus vous êtes calme. C'est rare.
Oui, oui.
Et gentil avec votre brigade.
Ah oui, ça c'est important. Si on veut garder vraiment tout un effectif, construire quelque chose ensemble, il faut créer... plus qu'une solidarité, il faut les, on se voit plus que nos femmes, que nos enfants, donc autant que ça se passe bien, autant accompagner. On a tous des hauts, des bas. Quand il y a quelqu'un qui va pas très bien, l'écouter aussi, regarder, peut-être lui donner une demi-journée de repos. Enfin, on peut en tout cas aider et puis construire quelque chose pour que tout se passe bien.
Mais c'est vous le chef.
Mais c'est moi le chef.
C'est vous qui tranchez, qui décide.
Ah, ça, c'est, oui, c'est toujours moi qui ai le dernier mot. Oui.
Qui tranchez, dans vrai. Tous les sens du terme.
Le mot chef dans tous les sens du terme aussi, pour le coup. Stéphane Descotères, on y revient. Et qu'est-ce qui vous a appris en premier?
Alors, moi, ce qui m'a le plus marqué là-bas, c'était la technique. Stéphane Descotères, il a quand même, il a un grand parcours de cuisinier, il a fait des gros concours, et chaque assiette, il y avait une technique qui était, enfin, tout, le coup de couteau, l'assaisonnement, tout était à mon sens parfait. Et là, je me suis pris vraiment une véritable claque. Donc, j'ai appris, je pense, en 2 années chez lui, l'équivalent de 5-6 années que j'aurais pu passer dans différents autres établissements, parce que c'est la cuisine que je voulais faire après. Enfin, c'est ce qui m'a marqué. Donc, je buvais, je regardais, je tout notais. Voilà. Donc, désolé, Stéphane Descotères, si tu m'entends, mais j'ai toutes les recettes encore, mais
voilà. Et vous les faites de temps en temps?
Je m'en inspire, ouais. Des fois, je regarde tous mes petits carnets et je regarde ce qui était fait avant. Et puis, oui, ça donne toujours des idées.
C'est un dommage.
Ouais. Oui, aussi, oui. Ouais, ouais.
Le talent n'est rien sans technique et sans travail, dit-on. Mais la technique n'est rien sans talent.
Oui.
Ça marche aussi dans l'autre sens.
Oui, aussi, oui.
Ouais. Ouais. Chez vous, c'est quelle proportion, si vous pouvez l'estimer? La technique, vous l'avez dit pour Stéphane Descotères, c'est très important, une très très bonne technique, pour autant que le produit soit bon, évidemment. Mais ouais. Et le talent du chef, c'est quoi? Alors, une fois que la technique est acquise, bon, ça c'est bon. Le talent, c'est tout le reste?
Oui, le talent. Alors, ce qu'on appelle le talent, c'est l'identité du chef. Hein, c'est
le style.
Exactement, oui. Ah, oui. Moi, par exemple, j'aime le local, j'aime les plantes sauvages. J'aime travailler ce côté terroir, donc c'est un peu ma ligne directrice. Ceux qui veulent venir dans ma cuisine et manger du homard avec du gingembre ou de l'ananas, malheureusement,
voilà. Des sauces très élaborées, voilà. Tout ça, il y a pas.
Moi, c'est non. Moi, j'aime la cuisine d'instinct. Je me balade dans le jardin où je vais voir le maraîcher quand il m'apporte des légumes. Ça, c'est mon inspiration. Voilà.
Vous avez même fait, je crois, des ateliers hein, où on pouvait aller. J'ai noté ça quelque part, mais je ne retrouve plus, évidemment. Atelier cueillette et cuisine sauvage.
Oui.
Voilà, c'était à Montet.
Exactement, oui.
Parce que vous avez travaillé sur les hauts de Montet à 1200 mètres d'altitude.
Oui, sur le domaine des white pods, où là, j'ai vraiment pu.
White pods, c'est ces espèces d'igloos, là.
Oui, exactement.
C'est des chambres d'hôtel.
Oui. Ah, où c'est vraiment une expérience client incroyable, où les clients arrivent, posent leur voiture et puis sont en pleine nature, dorment dans ces fameux pods autour des vaches. Enfin, non. Donc là, on pouvait aussi faire une cuisine complètement locale avec, on ramassait des champignons, on avait du lait fermier. Enfin, c'était.
Mais qu'est-ce qui pousse justement quand vous dites cueillette sauvage, c'est quoi? Il y a quoi qui pousse là-bas?
Oh, il y a énormément de choses, que ce soit des pifs de. Non, des pifs de sapin, des racines de fougère, par exemple, avec un goût très prononcé de réglisse.
Des racines de fougère.
Ouais.
Donc la fougère, on voit à peu près la plante, il y en a partout.
Ou déraciner.
On déracine la plante.
Alors il y a deux variétés. Il y en a une où la racine a vraiment ce goût prononcé de réglisse, qui est très intéressante. On a de l'oxalis, on a de la spérule odorante, une fois séchée, qui rappelle un peu le goût de la vanille.
C'est une fleur un peu blanche, une toute petite fleur.
Exactement, oui. Ouais. Mais c'est non, les plantes sauvages qu'on met le nez dedans, c'est un univers incroyable.
Savoir un tant soit peu chamanique, sans utiliser des grands mots, mais connaître les plantes, mais c'est vrai que c'est de cet ordre-là, non? Vous avez appris ça comment et où?
Alors où justement Stéphane Descotter faisait travailler avec une cueilleuse au Pont de Bran, et puis quand elle ramenait ses paniers, mais toutes les plantes qu'elle ramenait, c'était comme vous allez vous balader, ou même des fois sur le trottoir, il y a deux trois plantes qui c'est des plantes comestibles. Alors ça peut être utilisé à des fins esthétiques, mais quand on apprend à les cuisiner, alors là, ça devient passionnant. Donc à partir de là, je me suis dit je regardais les plantes différemment. Je me suis renseigné, j'ai acheté une quantité de bouquins là-dessus. Je regardais des vidéos sur YouTube. Enfin, et puis après, c'est parti. J'ai essayé. Donc
il toujours. Faut faire gaffe. C'est vrai qu'on peut pas tout manger.
Oui,
il y en a qui sont dangereuses.
Non, faut faire attention. Ouais. Mais avec des bouquins bien renseignés, on y arrive. Ouais.
Donc là, c'est de la technique et un sacré apprentissage, un sacré savoir.
Oui.
Et vous partiez avec votre brigade cueillir des plantes le matin?
Alors non, on l'a pas encore fait, mais c'est prévu. Là, il y a tout est en train de fleurir, de pousser, donc on va se faire des belles matinées avec partir avec nos cagettes et puis prendre une heure à ramasser pas mal de choses.
Ouais, parce que les choses qu'on connaît, qui sont le sureau par exemple, qui en fleur en ce moment, ça bon. On connaît plus ou moins.
Oui.
Il y a les pissenlits, je crois qu'on peut aussi manger.
Voilà, il y a la cassia aussi qui fleurit. Enfin, tout est en train d'exploser, entre guillemets. Donc, nous, on prend, on ramasse, et puis on fait exprès de ramasser un petit peu plus pour anticiper cette période hivernale où là, on n'aura plus rien. Donc, on conserve nos plantes, on les fait sécher, on les fait macérer dans de l'alcool. On tente énormément de choses pour
les congeler.
On a essayé, on en a mis au congèle. Et voilà, comme ça, cet hiver, on pourra avoir le plaisir à travailler. On a fait sécher des asperges, on a essayé de faire une huile d'asperges blanches pour servir, pour magnifier un plat cet hiver, par exemple. Il y aura une belle histoire derrière.
Une huile d'asperges blanches, on en a déjà à la bouche. Ah oui, complètement, complètement. Alors, nouveau choix musical, ça c'est le vôtre, Jérémy Cordier. Bigger Ranks, c'est un reggae man français. Montagne, oui, ça nous va.
Ça vous plaît, ça, Simon.
Et le reggae aussi, d'ailleurs.
Encore un avion dans le ciel qui se prend pour une étoile, qui aimerait voler toute la Cassiopée. Poto, tu dis du mal de moi, t'aimerais kicker comme moi, tu vas finir par te casser le pied. Je serai la montagne, tu feras les échos. On ne parle jamais quand on en sait trop. Je serai l'étoile, tu feras la déco. On a beau trop tourner, t'as que des mauvais échos. On sera l'éléphant, tu seras la souris. passera le bon temps, tu seras les soucis. Tu donneras ton avis sur chacun de mes choix. Tu diras des autres ce que l'on pense de toi. On fera le soleil, tu feras l'ombre. Les masques dont tu mets en lumière tous tes côtés sont. On te serre la main et on se rend compte qu'il nous manque un doigt chaque fois quand on les rencontre. On fera le soleil, tu feras l'ombre. Les masques dont tu mets en lumière tous tes côtés sont. On te serre la main et on se rend compte qu'il nous manque un doigt chaque fois quand on les rencontre. Encore un avion dans le ciel qui se prend pour une étoile, qui aimerait voler toute la Cassiopée. Pourtant tu dis du mal de moi, t'aimerais kicker comme moi. Tu vas finir par te casser le pied. Je serai la montagne, tu feras les échos. On ne parle jamais quand on en sait trop. Je serai l'étoile, tu feras la déco. On a beau trop tourner, t'as que des mauvais échos. On sera l'éléphant, tu seras la souris. On sera le bon temps, tu seras les soucis. Tu donneras ton avis sur chacun de mes choix. Tu diras des autres ce que l'on pense de toi.
Bigger Hunks, c'était sa montagne à lui, Jérémy Cordier. Vous n'êtes pas originaire de la montagne, mais disons des collines jurassiennes, la jurassienne française, pas très loin de Lons-le-Saunier. Vous êtes né il y a 36 ans. Là, vous êtes passé de l'autre côté de la frontière depuis pas mal d'années. Chef du restaurant Racine dans l'hôtel Bon Rivage, c'est à la Tour de Paix. Alors, Bigger Hunks qu'on vient d'écouter, vous nous dites de lui que vous l'écoutez depuis toujours. Il vous a toujours accompagné.
Ah oui, oui. Moi, je l'ai découvert sur, à l'époque, c'était sur YouTube. Où il faisait des featuring avec des grands reggae-man et je l'ai toujours suivi dans ces petites salles de concert jusqu'à des grands concerts j'ai toujours eu du Bigger Hunks dans les oreilles, dans ma playlist
En cuisinant ?
En cuisine aussi, ouais. Non, c'est bien, c'est du soleil, c'est une musique qui nous permet aussi de s'évader, donc Bigger Hunks, il me suit depuis très très longtemps, ouais.
Le reggae qui a pas forcément bonne presse par les temps qui courent, il y a eu toutes ces questions de reggae-man suisse auxquels on reprochait de faire de l'appropriation culturelle. Enfin, vous avez suivi tout ça. C'est vrai qu'à l'époque, on écoutait toutes et tous du reggae dans les années 80-90. Maintenant, ça, on en écoute un peu moins. Vous sentez ça aussi, vous?
Il suffit d'allumer la radio et puis de regarder, enfin d'écouter, ouais. Aucun type n'est diffusé. Enfin,
c'est pas juste, non?
Ben non.
C'est pour ça que vous compensez dans la cuisine de votre restaurant.
Exactement.
Tout le monde est d'accord.
Chacun a sa son jour de petite enceinte. Là, chacun met la musique qu'il veut. Et voilà. Mais quand c'est moi, voilà, ils ont droit à Bigger Hunks dans la cuisine.
C'est chacun son tour.
Oui, ça permet aussi de découvrir l'univers musical de chacun. Et je trouve ça assez sympa. Ouais. On a des bonnes surprises des fois. Ouais.
Le reggae, ça va aussi avec une sorte de variété d'herbes, non?
Oui.
Qu'on peut cuisiner.
Oui. Est-ce que c'est une boutade. Le chanvre, on en fait beaucoup de choses. Est-ce qu'il se cuisine aussi?
Oui. Les graines de chanvre se cultivent, enfin se mangent. Moi personnellement, je l'ai jamais travaillé le chanvre. On en a discuté, c'est marrant. On a discuté la semaine dernière avec le jardinier et puis Basile. Après, c'est toute la question. On a un potager qui est quand même assez ouvert, donc voir des grandes plantes de cannabis, enfin de chanvre.
Qui sont très jolies d'ailleurs.
Oui, qui sont jolies, mais bon.
Mais très connotées aussi.
Voilà, exactement. Donc on verra.
Une partie de la clientèle se serait peut-être horrifiée de voir du chanvre, du cannabis au menu. Mais c'est marrant, en antenne, en écoutant cette chanson, on parlait du plantain, cette herbe qu'on trouve dans tous les prés. Enfin, c'est presque de la mauvaise herbe. Et vous nous disiez non, pas du tout. Alors, elle est connue pour ses vertus de cicatrisante et antiseptique. On peut le frotter contre une piqûre de moustique ou contre une cicatrice. Mais vous disiez non, le plantain qu'on trouve partout. Moi, je le cuisine.
Oui, les jeunes pousses et même les petites têtes revenues à l'huile, au beurre, assaisonnées, c'est un goût de champignons.
De champignons
de Paris, oui. Ouais. Non, c'est incroyable. Incroyable. Wow. À tester, oui.
Bon, ben, on viendra. Jérémy Cordier, depuis ce mois d'avril 2025, vous avez ouvert Racine. Ça s'est pas fait après quelques mois ou quelques années très faciles. Je crois que, enfin, j'ai lu que vous aviez même été tenté de jeter l'éponge. Vous aviez connu une expérience qui a été de très courte durée à Vevey. Est-ce que vous voulez nous et vous replonger là-dedans?
Oui. Alors, je vais rester bref parce que sans donner de nom, ça a été
pour montrer que la vie d'un chef n'est pas un long fleuve tranquille.
Oui. Là, ça a été. Je me suis rapproché de ma famille. En étant à Vevey, au début je faisais une cuisine dans cet établissement qui me plaisait beaucoup, et puis petit à petit tout s'est un petit peu dégradé, donc là je me suis vraiment posé la question à me dire est-ce que vraiment je veux faire ça, est-ce que je continue dans cette voie là et puis tout de suite j'ai imaginé un projet farfelu, parce que ça, j'espère que ça deviendra une réalité. Donc je me suis vraiment lancé dans une plateforme digitale, pareil, dans la même à peu près identité que Racine, pour connecter les producteurs aux professionnels, aux particuliers. Donc j'ai développé tout ça.
Le circuit super court.
Exactement, ouais. Ouais.
Et pour qu'on puisse, Simon, moi, parce qu'il cuisine pas.
Enfin, vous, pour moi.
Oui, volontiers, je vous ferai un croque-monsieur à l'occasion, mais pour qu'on puisse directement se fournir auprès du producteur.
C'est ça, et puis d'aller plus loin, parce que vous vous baladez, par exemple, à Vevey, vous utilisez Broco, alors j'ai appelé Broco parce que ma fille adore les brocolis, donc c'est simple. Vous utilisez Broco, et puis ça vous permet de regarder tout ce qui se passe sur la scène gastronomique autour de vous. Donc, ça se trouve, il y a un pêcheur qui organise une petite sortie le samedi, ou alors il y a un atelier pour apprendre à faire du fromage de chèvre sur les Hauts de Vevey. Voilà, ça permet de donner de la visibilité, en tout cas, à tous ceux qui font vivre ce joli métier.
Bon, ça, c'est une plateforme digitale, vous êtes devenu entrepreneur, mais la cuisine est au fourneau. Vous avez été presque tenté, vous avez imaginé un jour d'arrêter?
Oui, parce que...
On l'a échappé belle, puisque vous êtes de retour, mais,
exactement.
Mais ça a été jusque-là, quand même.
Oui, ça a été jusque-là, parce que l'établissement où j'étais avant a fermé, et puis là, forcément, j'étais toujours à la maison, je me suis occupé de ma fille, je voyais ma femme tous les jours, et j'ai pris goût à cette vie-là. Je me suis dit, est-ce que véritablement je veux continuer comme ça? Et puis après, Madame Forestier, la directrice du Bon Rivage, m'a appelé, on s'est rencontrés, et l'étincelle, elle a pas mis longtemps avant de se rallumer, donc je suis reparti et je regrette absolument pas. Ouais.
Vous connaissiez ce lieu avant d'y aller?
Ah bah oui, je passais devant deux trois fois par jour, ouais. Ah ouais. Elle est incroyable.
Faut le décrire, ce lieu, c'est vraiment les pieds dans l'eau.
Ah oui.
Il y a pas de chemin ou de route entre l'établissement et le lac, quasiment. C'est en contrebas de la route.
Exactement.
Au bord du lac.
Ah ouais.
Situation quasi unique.
Ah oui, non, incroyable. Et puis, entre l'hôtel et le lac, on a un potager exceptionnel, incroyable. J'ai jamais vu d'aussi grand jardin, en tout cas, dans un hôtel dans cette région.
On peut le visiter?
Ah oui, non, complètement. Et puis, là, tout va pousser. Le jardinier qui s'occupe de son jardin à 100%, je lui fais toute la liste des plantons. Là, il y a tout qui va commencer à sortir de terre. Donc, on va pouvoir être rapidement autonome en termes de fruits et légumes, là.
C'est la directrice ou le fait qu'il y ait un potager qui vous a convaincu d'y aller?
Non, c'est un tout.
C'est un tout.
C'est un tout, ouais. Le projet Racine dans sa globalité. Ouais.
Mais on peut passer si on veut juste voir le potager?
Bien sûr.
Ce serait dommage de ne pas tester la cuisine.
On n'a pas le temps ou pas l'argent?
Ah oui, ouais. Peut-être, oui.
Non, bien sûr, oui. Ouais.
Pas l'argent, c'est intéressant. Si on aborde les questions de gros sous, c'est vrai que quand on mange de façon gastronomique, ça coûte plus cher. Mais Dieu sait que le rapport qualité-prix est bon, hein, évidemment. Ce sont de très bons produits cuisinés avec amour. Chez vous, quand on regarde la carte, c'est pas si cher que ça, au fond.
Non, c'est pas si cher que ça. Alors après, c'est vrai qu'on travaille avec des produits du jardin, des produits locaux. Les produits locaux coûte malheureusement plus cher que les produits qui viennent de Thaïlande ou n'importe d'Hollande, de France même.
C'est quoi? C'est x2, x3?
Oui, x2, oui.
x2.
Oui, pratiquement.
Bon, là, les plats, ils sont entre 10 et 21 francs. Puis après, le plus cher, c'est la côte de bœuf à partager.
Oui,
c'est 800 grammes de bœuf quand même.
Mais après, c'est des quantités, c'est pour ça, sur des petits plats à partager, il faut que ça reste accessible, il faut qu'on arrive à capter pas mal de monde et transmettre le message qu'on veut faire passer. Ouais.
4,50 francs la boule de glace, jamais on peut visiter le potager.
Voilà. Mais donc les plats locaux, cette histoire de rayon de 70 km, c'est quand même des coûts qui doublent par rapport à si on achetait des mets d'ailleurs ou des produits d'ailleurs, c'est x2, souvent x2.
Oui, voilà. Ouais. Alors un peu moins, oui, mais on s'en rapproche en tout cas. Mais derrière, ça permet de faire vivre pas mal d'artisans, de producteurs et de fournisseurs. Donc on joue le jeu. On joue le jeu plutôt que d'aller chercher des asperges du Pérou, des asperges magnifiques qui poussent à côté de chez nous. Donc, je préfère prendre...
Qui seront meilleurs.
Et qui seront meilleurs.
En goût.
Ouais,
mais ça veut dire que vous devez quand même baisser votre marge, réduire votre marge.
Oui, et puis c'est aussi l'avantage d'avoir un hôtel qui vend des chambres. Donc, on a aussi le
côté... Vous y retrouvez.
Exactement. La rentabilité, ouais. C'est pas que la cuisine. On peut manger des asperges du Pérou, ici, en Suisse romande, dans les restaurants.
Oui, je vous invite à aller dans les grandes surfaces et de regarder l'origine des asperges.
Mais dans les restaurants, dignes de ce nom, on sert des asperges du Pérou.
Oh, certainement, oui.
On devrait toujours se renseigner, en fait.
Oui, alors normalement, ils sont censés marquer, ou la personne en salle doit vous, à moins qu'elle soit malhonnête, mais doit vous dire l'origine.
Sur les cartes, en général, normalement, la provenance est indiquée.
Soyons vigilants. Ça, c'est le message à 15h55. C'est la fin de cette première heure, Jérémy Cordier. On va vous retrouver dans la deuxième. Lâche-moi la main, il y en a.
Les yeux gris, les joues qui se creusent pas du tout.
nouvelle vague belge, il y avait Angèle, et il faudra désormais compter aussi avec Iliona, sa cadette, Lâche-moi la main. Absolument, on adore l'écouter. On salue au passage notre programmatrice, Stéphanie Jovanovic. Jérémy Cordier, vous êtes notre invité jusqu'à 17h. On va vous retrouver de l'autre côté des informations. On espère qu'elles seront bonnes ou pas trop mauvaises.
On va tendre l'oreille, en
tout cas. Absolument. Il est 16h pile sur RTS Première. À tout de suite.